Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Forum de la presse. Vendredi 18 mars, au menu, nous vous proposons de parler de l'attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire avec plus de 18 morts. Du forum de Kidal prévu du 27 au 30 mars 2016, de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, il en sera question. Cette commission qui s'élargit donc de 15 à 25 membres. Et enfin, cette question, faut-il ou non, oui ou non, négocier avec Iyada Gali, ténor du groupe salafiste djihadiste en Sardine. Nos invités pour en parler sont Célia Dalmeda du Journal du Mali, Hassan Kone de NoteNation.com, Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo et Togola Awasemega de Kunafoni.com qui nous rejoindra très bientôt. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation et vous avez à la technique Gagné Kanté.
Le grand dialogue.
Le dimanche 13 mars, Grand Bassam, à l'instar de Bamako ou de Ouagadougou, a été victime de la barbarie d'extrémistes religieux. 19 morts selon le dernier bilan. Cette fois-ci, l'attaque s'est déroulée quand même un dimanche à San. On a un peu oublié le symbole du vendredi. On a vu quand même que Ouaga et Bamako ont été attaqués dès vendredi. Hassan Kone, vous étiez à Abidjan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette triste attaque?
Effectivement, et cette triste attaque démontre que, et contrairement à tout ce qu'on croyait, que de plus en plus, c'est les vendredis, les djihadistes font leurs attaques et les plus importantes. On a constaté que là, c'est un dimanche matin, en pleine journée, que les djihadistes sont intervenus au niveau d'Abidjan. Il faut dire, depuis l'attaque de Bamako et de Ouaga, et de fortes rumeurs circulaient qu'il y avait des probables possibilités, ou du moins, les djihadistes pourraient intervenir sur Abidjan ou Dakar. Et malheureusement, le dimanche, ce fut à Abidjan, ce fut à Dakar et à Grand Bassam. Et avec le nombre de morts que nous déplorons, et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et je pense que cela s'est fait tout juste et à la fin d'une manifestation internationale qui a eu lieu à Abidjan. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'utiliser l'effet de la communication liée à cette manifestation pour donner beaucoup plus d'éclat à leur action?
Alors pourquoi ne pas avoir attaqué directement le Massa, puisque c'est de cette manifestation qu'il s'agissait?
Ah, mais s'ils attaquaient directement le Massa, ça allait être dramatique. Mais en réalité, je pense que le dispositif sécuritaire qui avait été mis en place, probablement par rapport au Massa, les a dissuadés. Parce que là, vous avez vu, pendant le Massa, je pense qu'au niveau d'Abidjan, il y avait un dispositif sécuritaire et qui les a dissuadés. Donc, probablement pour ceux-là, et ils se sont déportés à 45 km un peu plus loin, un dimanche au bord de la plage, pour porter ce coup-là à la Côte d'Ivoire.
Célia Dalmeda, Grand Bassam, un dimanche, jour d'affluence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Encore un autre pays ouest-africain de la sous-région qui est attaqué.
Oui, merci Ousmane Diadié Touré. Je voudrais d'abord m'incliner humblement en hommage à tous ceux qui sont tombés à la suite de cette attaque de Grand Bassam et de toutes les attaques qu'on vit tout le temps, partout maintenant. Et je pense que l'attaque de Grand Bassam est juste la preuve encore que nous ne sommes à l'abri nulle part. Et en cela, les terroristes sont en train de gagner leur pari. Parce que quand on pense que Bassam, c'était vraiment l'image de l'insouciance, l'image de cette joie de vivre à l'ivoirienne, que tous ceux qui arrivaient en Côte d'Ivoire se précipitaient pour aller partager. Et c'est justement, vous évoquiez à l'instant la tenue du Massa. Ils savaient, ces gens-là, qu'il y aurait beaucoup d'étrangers sur cette place, cette plage-là, le jour-là, parce que justement, il y avait beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui étaient venus participer à cette manifestation. Et l'autre volet, l'autre versant de la chose, c'est qu'ils se sont attaqués au ventre mou, parce que la sécurité à Abidjan avait été extrêmement renforcée. Il était très difficile de faire une attaque dans la capitale. Donc ils sont, je pense, et c'est des gens qui, comme le disait quelqu'un récemment, sont de fins stratèges, ont bien étudié le terrain sur lequel ils étaient et ont trouvé la faille. Et malheureusement, la faille, c'était ce dimanche 13, encore un 13, sur la plage à Grand Bassam. Donc je pense que le vendredi est peut-être un symbole dans nous, nos pays musulmans. Peut-être c'est pour ça qu'ils attaquent les vendredis chez nous. Et en Côte d'Ivoire, c'est dimanche. le jour saint, le jour où tout le monde se repose, le jour où tout le monde est en famille, donc le jour où tout le monde est plus...
Et le jour où les gens vont à l'église également.
Exactement, le jour où les gens sont plus à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux et donc seront plus touchés encore par ce qui s'est passé. Je pense que c'est une tragédie qui, malheureusement, est un signal d'alarme supplémentaire. On n'en a que trop pour nous dire que, attention, la menace, elle est partout et qu'il faut vraiment rester vigilant. Il faut vraiment que nos États aussi... enfin se mettre ensemble pour lutter contre cette menace djihadiste, salafiste, tout ce qu'on voudra, mais c'est une menace globale aujourd'hui.
Lanfia Sinaba, est-ce que, au regard de ce qui s'est passé à Grand Bassam, est-ce qu'il y a un pays de la sous-région aujourd'hui qui est sécurisé?
À mon avis, non. Nous sommes pour vous permettre certainement à ce niveau de citer un monsieur que j'ai interviewé récemment, André, il disait que nous sommes dans une... les terroristes...
André, quand vous dites André, il s'agit de André Bourgeot.
André Bourgeot.
De recherche du CNRS.
Les terroristes salafistes sont dans des schémas qui leur permettent d'intervenir quand ils veulent, où ils veulent. Je pense qu'aujourd'hui, de l'autre côté, nous devons revoir certainement nos stratégies. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'un pays est à l'abri? Je ne pense pas. Nous sommes à une phase où la vigilance doit être toujours de mise. Personne n'est à l'abri. Parce que moi, personnellement, je ne voyais vraiment pas une attaque à Grand Bassam dans le contexte du Massa. Je me disais peut-être que si ça devrait intervenir, peut-être... dans un autre pays, là où on n'a vraiment pas l'attention focalisée sur les aspects sécuritaires. Vous voyez, au moment où on pensait qu'on ne pouvait pas agir, qu'ils ne pouvaient pas agir, c'est là où ils ont agi. C'est là où je me dis qu'aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri. Certainement qu'ils sont en train de préparer d'autres coups pour un autre pays que nous ignorons. Donc, la vigilance soit de mise. Je vois Célia taper du bois. Effectivement, il faut
vraiment... Célia d'Almeida, justement, je vous redonne la parole à ce niveau-là. Est-ce que aujourd'hui, quelle est la faille dans la sécurité de nos pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Est-ce que c'est le renseignement? Est-ce que c'est le manque de collaboration de nos différentes forces?
Je pense que c'est un tout. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je pense que c'est un tout. Nos pays ne sont pas plus fragiles que d'autres. Il y a des attentats terroristes en France. Et pourtant, la France a des moyens de renseignement et tout ça développés qui mettent à contribution quand nous sommes attaqués. Ça veut dire que, en fait, en face, on a un ennemi qui est très puissant. Et je pense que il faut qu'on le comprenne et qu'on absorbe cette nouvelle donnée-là. Nous, particulièrement africains, nous n'avons pas cette capacité-là d'être tout le temps aux aguets. Ce n'est pas dans notre nature. Il n'est pas dit qu'il faille tout le temps regarder à gauche, à droite quand on marche. Mais il y a des petits trucs de vigilance qu'on pourrait développer, qui pourraient peut-être nous permettre de nous rendre compte que, mais tiens, cette personne-là a une attitude bizarre. Et la dénoncer à temps. Parce que ce sont des gens, quand ils agissent, ils ne débarquent pas la veille dans le pays où ils interviennent. Ils sont là, ils s'acclimatent, ils vivent avec les gens. Ils ont des attitudes qui peut-être, si nous étions un peu plus aux aguets, pourraient nous faire tilt.
La question que je me pose à Sane Kone, c'est quel type d'attitude? Il faut faire attention à quel genre d'attitude aujourd'hui, surtout dans nos pays où recevoir un étranger est quand même signe de politesse, de bienveillance sociale. À quel genre d'attitude et de comportement faudrait-il faire attention, selon vous?
Aujourd'hui, il faut peut-être dire que par rapport à ce phénomène-là, il va falloir que tout un chacun soit beaucoup plus vigilant et dénonce rapidement des comportements suspects et suspicieux. En réalité, quand il y a étranger et puis à étranger, vraiment il y a des gens, le comportement peut prêter un peu à être beaucoup plus prudent. Et quand on est dans cette attitude, il serait intéressant de s'approcher des forces de sécurité pour qu'ils essaient de fouiner là, pour savoir ce qui se passe de normal ou d'anormal. C'est vrai, on rentre carrément dans un jeu de la délation, hein. On rentre dans un jeu de la délation et c'est pas mauvais. Il n'est pas dit aux citoyens d'aller agresser. Il est dit aux citoyens de faire appel aux hommes de droit qui vont venir fouiner,
qui vont venir mettre le nez dans l'affaire de l'autre pour savoir ce qui s'y passe en réalité. Est-ce que ce n'est pas un coup fourré qu'on est en train de préparer contre la sécurité publique? Voilà, nous sommes sur le terrain de la sécurité publique. Il est aussi clair que, et c'est vrai, les attentats, c'est partout dans le monde, mais nos différents États en Afrique de l'Ouest ou en Afrique aujourd'hui sont beaucoup plus fragilisés parce que le contexte aidant, nous n'avions pas suffisamment de forces de sécurité. Même si on les a souvent, ils ne sont pas bien formés. On a des problèmes de renseignement.
Et le manque d'équipement.
On a le problème de manque d'équipement.
Aussi.
On a le problème d'engagement. Et sans oublier le grand phénomène rampant de la corruption qui est vraiment le fléau qui fait de nos pays un véritable lit de ce phénomène de terrorisme.
Alors, l'Anfian Sinaba de l'Éveil Hebdo, est-ce que aujourd'hui les acquis de l'UEMOA, de la CEDEAO, on va dire, on peut voyager d'un pays à l'autre quand on est membre de la CEDEAO facilement? Est-ce que ces acquis ne sont pas menacés avec ces nouvelles donnes sécuritaires aujourd'hui?
Effectivement, c'est des acquis qui sont menacés. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on parle en termes de menace. Du moment où il est question de sécurité des personnes et des biens. Et le dernier sommet de la CEDEAO, quand il y a eu l'attaque ici à Radisson, quand le président Macky Sall était là, au cours de ses entretiens avec le président Ibeka, il a été question, au cours du sommet qui allait suivre, qu'on allait parler de la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, il y a lieu aujourd'hui de remettre en cause, de revoir cette dynamique qui a été lancée depuis un certain temps, à mon avis. Et je ne pense pas que ce soit des menaces contre la libre circulation des personnes et des biens, car il y va de la sécurité des personnes. Je vois Croissant qui souhaiterait réagir à ce niveau. Mais à mon avis, sincèrement, on ne doit pas parler en termes de menace à la libre circulation des personnes et des biens.
Hassan, on va laisser Céléa réagir très rapidement.
Je voudrais réagir sur deux points. C'est par rapport à qui peut attirer notre suspicion. Quelqu'un qui reste tout le temps enfermé, qui ne parle pas beaucoup, qui arrive dans un milieu où il refuse de s'intégrer, où on essaie de l'approcher, il ne laisse personne rentrer chez lui. Par exemple, voilà, il y a de ces attitudes qui ne sont pas nôtres dans notre culture africaine. Donc quand quelqu'un agit comme ça, qui fait des allers-retours, qui ramène des choses chez lui qui n'en ressort pas, voilà, il y a des vidéos aujourd'hui sur internet où on vous montre comment une personne suspecte se comporte. Maintenant, il y a, cette réaction vaut pour les deux points, il y a la question du droit. Il ne faut pas aussi que cette sécurisation arrive à empiéter sur les droits à la circulation, sur les droits à la liberté, qu'on n'aille pas, parce que quelqu'un est allé raconter des bobards, aller attraper quelqu'un, aller le mettre en prison en attendant de se renseigner.
Justement, dans les pays comme les nôtres, avec assez peu d'effectifs pour les forces de l'ordre, avec pas beaucoup d'équipement, manque de formation, comme Hassan le disait, comment arriver justement à cette fluidité de circulation entre nos différents pays et en même temps préserver justement.
Mais chaque pays a déjà des contingents qui peuvent bénéficier de formations supplémentaires, hein, qui peuvent bénéficier de petits matériels, ne serait-ce que les détecteurs de métaux aux frontières, ne serait-ce que ça, pour être sûr que celui qui passe, il n'a pas d'armes dans son sac. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut faire qui ne nécessitent pas d'attendre qu'un cargo vienne par la mer, de quelque part, donc ça va nous prendre 6 mois. Non, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place, il suffit qu'il y ait la volonté politique. Et je pense aussi que la population a un rôle très important, non pas parce que quelqu'un, excusez-moi l'expression, vous a mis du sable dans votre attiéké, vous allez le dénoncer qu'il a des attitudes suspectes, non. Mais vraiment être conscient qu'il y a une menace collective qui est là, qui n'est pas seulement pour nous le Mali, mais qui est une menace pour le monde entier, et qu'il est important que quand on remarque que quelque chose ne se passe pas comme ça devrait se passer, eh bien, aller au commissariat, et comme a dit Hassan, aussi que les gens qu'on a en face soient aptes à écouter, à décrypter ce qu'on leur dit, et à prendre des mesures, agir en conséquence pour circonscrire la menace.
Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a un gros effort à fournir du point de vue de la communication. Parce que oui, dans notre culture, dénoncer par exemple son voisin, c'est pas quelque chose qui est...
C'est pas l'idéal. Sur ce, on observe quelques secondes de pause et je reviens vous donner la parole. L'Anfia Sinaba.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vendredi 18 mars, vous suivez le forum de la presse du studio Tamani. Bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. Restez avec nous. Nous parlons de l'attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. L'ancien Sinaba de l'Éveil Hebdo était sur une lancée.
Justement, c'était par rapport à la dénonciation. Dans notre culture, dénoncer son voisin, c'est pas trop... On n'est pas habitué à ça. Donc, quelque part, à mon avis, les communicateurs, les journalistes, les hommes de médias ont un grand rôle à jouer à ce niveau par rapport à ce changement de mentalité. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles menaces, nous sommes dans une nouvelle situation qui nécessite vraiment des efforts à fournir. Que lorsqu'on va dénoncer son voisin, en le faisant, on ne fait pas de l'escroquerie, on ne fait pas de la méchanceté, ça ne relève pas de la méchanceté. Peut-être préparer l'opinion à ça aussi, ça va beaucoup nous aider. Je pense que ce travail revient aux hommes de médias, à mon avis.
Hassan Kone, de... Excusez-moi. Hassan Kone de NoteNation.com, un spécialiste en sécurité du Sahel, notamment Ousmane Cornéo, a dit il y a quelques jours dans nos antennes que les terroristes n'avaient pas besoin de voyager avec des armes. Il prétend, il a dit sur nos antennes d'ailleurs, qu'il y a plus d'armes en circulation au niveau de la société civile, au niveau du public en Côte d'Ivoire et au Mali qu'avec les forces armées. Est-ce que cette donnée aussi n'est pas inquiétante, cette libre circulation justement des armes, la prolifération des armes légères n'est pas un facteur aggravant?
Oui, là je suis entièrement d'accord parce que moi je ne crois pas que les terroristes qui sont intervenus à Bassam et soient venus de quelque part de la Syrie ou de quelque part dans le monde avec ces armes-là dans leurs valises. Ils se sont sûrement servis sur place. Il est clair qu'il y a un dispositif impressionnant qui circule, surtout la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une guerre et il est clair qu'il y a suffisamment d'armes encore qui sont sous les lits à Abidjan et que quelqu'un peut vendre ou louer de passage. C'est la même chose chez nous aussi au Mali, c'est la même chose en Guinée, dans toute la sous-région. Mais là, je me pose la question. Il y a eu en son temps ces commissions qui ont été installées au plus haut niveau auprès des présences de la République par rapport à la CEDEAO, la commission de lutte contre la prolifération des armes légères qui depuis 10 ou 15 ans travaille. Mais aujourd'hui, on évalue quel est le résultat qu'il y a en réalité qu'on a obtenu. Malgré tout ce beau travail-là, on sent que les armes de petit calibre ont été utilisées au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali, et même aujourd'hui au Nigeria, ça s'utilise partout. Donc, il y a ce commerce-là aussi des armes, hein. Et ces armes, on ne les fabrique pas à Bamako, hein. On ne les fabrique pas à Bamako, on les fabrique pas en Afrique pour la plupart, d'où ces armes-là viennent. Voilà, il y a des questions qu'on se pose. Même ce phénomène, c'est ça, je voulais dire, quand l'Anfia disait il faut qu'on surveille les frontières. C'est vrai, il faut qu'on surveille les frontières, mais il ne faut pas qu'on se fasse aussi peur. Hein. Vraiment, il n'y a pas suffisamment d'intégration dans la sous-région. Il faut prendre des dispositions pour que les gens s'intègrent davantage, qu'il y ait beaucoup de libre circulation des personnes et des biens. Mais dans des dispositifs sécuritaires bien précis, un contrôle minimum dans les frontières, c'est tout ce qu'on veut. Et puis, bon, rien ne prouve que ceux qui sont intervenus à Abidjan, selon les différents communiqués qu'on a lus, on a vu que probablement deux sont venus de l'extérieur, mais le troisième, on a dit qu'il était Ansa. Ça veut dire que c'est un local. C'est un local. À Bamako, on avait aussi dit qu'il y avait un Ansa et un étranger et deux Ansa. Donc ça veut dire que de plus en plus, ils ne font même pas venir les intervenants de l'extérieur des pays où ils interviennent. Ils recrutent sur place dans la population locale.
Effectivement.
Alors, ouais, le dernier mot sur ce chapitre
oui,
avec Célia Dalméda.
Aussi, moi, il y a un sujet qui me tient extrêmement à cœur. C'est quand je vois les images de ces jeunes, de ces terroristes, ce sont des enfants. Ce sont de très jeunes gens qui se laissent influencer et que nous laissons influencer. Et là, je voudrais vraiment, si vous me le permettez, tirer la sonnette d'alarme aux parents. Parce que nous avons, comme on est en train de le dire sur le plan de l'éducation générale, les parents démissionnés. Si nous démissionnons, d'autres vont récupérer nos enfants et vont en faire des terroristes. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc il faut que les parents soient plus attentifs à leurs enfants et vérifier vraiment, être avec eux. L'éducation religieuse, c'est les parents. C'est vrai que ça se fait à la mosquée, dans les médersas, mais c'est les parents. C'est les parents qui doivent contrôler leurs enfants et savoir qui est-ce qu'ils fréquentent. Sentir quand l'enfant est en train de dévier pour rapidement le ramener. Parce que si de plus en plus les Ansars, comme dit Hassan, ça veut dire que ce sont nos enfants qu'on amène pour nous tuer nous-mêmes. Et ça, c'est extraordinairement grave. Il faut que nous, les parents, nous ayons une vigilance accrue pour suivre nos enfants et très rapidement les récupérer quand ils tombent dans les mains des gens qui les envoient se tuer pendant que eux, ils sont dans des 4x4 climatisés, dans des tentes climatisées en train de se balader.
C'est là où je parle d'ignorance. Il faut être ignorant pour être terroriste. Il faut être ignorant pour approuver les actes terroristes ici.
Alors, on va à présent parler du forum de Kidal, ce fameux forum qui est prévu du 17 au 30 mars. Toutefois, il y a une incertitude qui plane sur la tenue de ce forum. La participation des officiels maliens pose problème, puisqu'une partie de la population menace quand même de manifester au regard de la venue du Premier ministre qui était prévue à Kidal. Théoriquement, les parties prenantes engagées dans le processus de paix selon la CMA sont les bienvenues. Alors, Hassan Kone, théoriquement, ces parties sont les bienvenues, mais il y a quand même une menace qui plane. Est-ce qu'il y a risque d'embrasement si jamais le Premier ministre va à Kidal, même après la signature de l'accord à présent?
Bon, moi je me pose des questions. Hein. Je me demande le forum de Kidal, qui l'organise?
C'est les groupes armés.
Bon, si c'est les groupes armés qui organisent le forum de Kidal, et si la CMA dit que le gouvernement malien est
invité,
bon, c'est au gouvernement malien de voir s'il peut aller pour ce forum ou s'il ne peut pas aller pour ce forum. Parce que dans le contexte actuel, et selon les rumeurs qui circulent, qu'une partie de la population ne veut pas que le gouvernement malien, des autorités maliennes arrivent à Kidal. Mais selon les informations qu'on avait, c'était cette même population qui souhaitait que les services sociaux de base de l'État soient à Kidal. Comment vouloir que les services sociaux de base viennent à Kidal et vous ne voulez pas que les animateurs de ces services sociaux de base, les gouvernants de ces services sociaux de base puissent mettre le pied à Kidal? Oui, on veut l'argent, mais on ne veut pas les mallettes qui viennent avec l'argent. C'est un peu ça. Et je pense que toujours dans ce dossier de Kidal, il faut qu'on se dise la vérité après la signature de cet accord. J'ai l'impression que les vérités ne sont pas encore dites. Les gens ne sont pas sincères dans le dialogue et dans les négociations.
C'est tout.
Quand on est sincère, quand on se bat pour l'unité nationale, on a signé des accords, on a mis en place un dispositif, on doit vraiment aller rapidement à l'application de ces dispositifs. Le forum de Kidal était, moi je pensais que c'était une grande opportunité pour que les différentes communautés de la région du nord du Mali, je ne parle même pas de Kidal, du nord du Mali et le reste du Mali puissent profiter de cet espace-là pour vraiment évacuer un certain nombre d'incidents pour qu'on aille vite à la paix. L'indépendance souhaitée par certains dans la région de Kidal, pour moi, restera chimérique. Même s'ils ont cette indépendance, je me demande comment un micro-État comme la région de Kidal pourra survivre entre un État du Mali et l'État d'Algérie. Je me pose ces questions. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique de mettre encore fin à ce conflit inutile qui n'a que perduré.
Céline Almeida du journal du Mali.com. Un forum de 3 jours du 27 au 30, financé à plus de 400 millions de francs CFA par l'État malien. Et il n'est pas sûr que l'État malien soit le bienvenu.
Ben, l'État malien ne peut pas être le bienvenu puisque... Comme l'a dit Hassan, toute la vérité n'est pas dite. Moi, je pense qu'on est en train d'assister à un jeu de dupes extraordinaire dans cette histoire. Nous voulons aller à Kidal, mais nous savons très bien que les conditions ne sont pas réunies. Ceux qui nous invitent à Kidal savent très bien qu'ils n'ont pas mis en place les conditions pour que nous puissions arriver. Je pense qu'ils...
Justement, c'est quoi les conditions
déjà, c'est de dire aux populations de Kidal, bon, écoutez, nous avons signé un accord. D'accord stipule que désormais Kidal c'est le Mali. Mais on peut pas continuer à parler aux gens d'indépendance, d'Azawad et dire au Premier ministre du Mali de venir. Mais c'est pas logique. Les gens sont toujours dans une logique, la logique dans laquelle ils étaient, excusez-moi, hein, mais il y a 4, 5, 6, 7, 10 personnes qui sont allées signer un accord. Le reste de la population n'a pas signé cet accord. Le reste de la population n'est pas de cœur. Si vous parlez avec les gens qui vivent à Kidal, ils vous disent que les gens là-bas ne sont pas du tout dans la logique dans laquelle nous autres nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Ça veut dire que les leaders qui viennent nous parler ici à Bamako, quand ils rentrent chez eux, ils ne vont pas dire la vérité. aux gens qui sont derrière eux. Et donc ces gens sont toujours dans une logique, qui est une logique, comme a dit Hassan, qui est une logique erronée, une logique utopique, mais qui est la leur. Et donc il est important, au jour d'aujourd'hui, au lieu d'envoyer 400 millions pour aller faire un forum, c'est quoi? Ça va changer quoi dans la vie des gens de Kidal? Absolument rien. Déjà qu'ils ne sont pas pour. On va partir, il va y avoir des incidents. Je prie le ciel pour que, vraiment, d'ici le 27 mars, cette histoire se résolve et que le Mali, le vrai Mali, puisse être ensemble à Kidal. Je ne veux pas dire les autorités, hein, le Mali, soit ensemble à Kidal, comme l'a dit Hassan, toutes les régions représentées, et les sociétés civiles, et les politiques, et tout le monde, les groupes armés, les populations, pour qu'enfin on se parle le langage de la vérité, pour qu'on dise à nos frères de Kidal que vraiment cette histoire-là, ils n'ont qu'à laisser ça. Le Mali, c'est le Mali. Ça fait des siècles qu'ils sont en train de se battre pour une indépendance que, vraiment, si on regarde là, ce n'est même pas dans leur intérêt. Il faut qu'on le leur explique. Il faut qu'on le leur explique. Et peut-être que si on le leur explique, ils vont le comprendre. Maintenant, s'ils refusent, bon, il y aura d'autres discussions. Je pense qu'on est allé trop vite. On a mis la charrue avant les bœufs. Et les conséquences de cette charrue-là sont en train de nous rattraper aujourd'hui. J'espère que d'ici le 27, vraiment, une solution va pouvoir être trouvée, parce que ce serait vraiment vilain, excusez-moi l'expression, que ce forum-là n'ait pas lieu après tout le tapage qu'on ait fait autour.
Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, on a quand même vu une laisse populaire quand la plateforme, notamment le Gatia, est arrivée à Kidal avec armes et bagages. Ils ont été accueillis, applaudis. Ils sont pourtant pro-Bamako. Alors, comment expliquer aujourd'hui ces menaces d'une certaine partie de la population par rapport à la venue des autorités maliennes à Kidal pour le forum?
Moi, je pense qu'on doit peut-être relativiser. Les informations que nous avons au niveau de l'éveil, c'est que à la primature même, on s'interroge si le Premier ministre est invité à ce forum-là. Donc ça, c'est un autre point de discussion. C'est un forum qui a été initié par les groupes armés. C'est une très bonne chose lorsque les autorités... Nos autorités participent, c'est une très bonne chose. Mais moi, je ne pense pas qu'à ce stade, comme le président Ibeka lui-même l'a dit, aucune fanfaronnade politique ne le fera débarquer à Kidal. Moi, je pense que nous sommes dans un processus. C'est une très bonne chose. Et pour les groupes armés et pour le gouvernement, lorsque le gouvernement va participer à cela, quelque part, ça va davantage crédibiliser les groupes armés, ça va davantage prouver leur bonne volonté d'aller vers la paix. Mais si cela n'est pas le cas aussi, je pense que il faudrait pas forcer pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation de mai 2014. C'est là où il y a mon inquiétude. C'est une très bonne chose si les autorités participent, mais au cas contraire, je ne pense pas qu'on doit faire un forcing. Et le Premier ministre qui est là aujourd'hui, je ne pense pas s'il va aussi forcer les choses. Surtout que lui-même, il est convaincu que l'initiative du forum ne vient pas de lui, ne vient pas du gouvernement, mais c'est une initiative de groupes armés. Ils se sont rencontrés à Anéfis, ils estiment qu'ils doivent se rencontrer également à Kidal. Et je pense qu'aujourd'hui, on me dira peut-être que je suis pessimiste ou encore je suis dans cette histoire d'Azawad. Non, ce n'est pas une question de cela. Du moment où on s'est engagé dans un processus de paix, je pense que nous devons continuer dans la même lancée. C'est une très bonne chose. J'approuve quand le Premier ministre sera à Kidal. Mais au cas contraire, je ne vois pas l'intérêt de forcer les choses afin qu'il aille. Maintenant, s'il y a disait à quoi ça va servir ce forum, je pense qu'il sera question de paix. Et c'est très important pour notre pays. Paix et réconciliation. Du moment où les Maliens s'unissent pour parler de paix et de développement, c'est une très bonne chose à mon avis.
Hassan Kone, vous êtes de notrenation.com. On a vu quand même le forum d'Anéfis se tenir avec les différents acteurs qui se sont entendus sans la présence du gouvernement, entre autres, sans la présence de la communauté internationale, et ce forum qui a donné quand même des résultats concrets qui ont abouti aujourd'hui d'ailleurs à ce forum de Kidal.
Voilà, donc moi je me dis, si déjà il y a eu des antécédents qui ont donné des résultats concrets sans qu'on entende le son de la trompette de l'État malien ou du gouvernement malien. Mais forum de Kidal. Si c'est les groupes armés qui organisent leur forum pour aller s'entendre entre eux,
tant mieux.
Mais tant mieux que le gouvernement se mette à l'écart. On attend les résultats du forum de Kidal. Pourquoi vouloir forcément que l'État malien soit présent à ce forum-là? Et bon, moi, je n'arrive pas à comprendre.
Moi, à un moment donné, j'ai cru en réalité que c'est l'État malien qui organisait le forum. C'est pour ça, tout de suite au début, j'ai posé la question, qui organise même le forum de Kidal? Parce que tu ne peux pas organiser un forum où ta présence n'est pas souhaitée. Et puis, si ta présence n'est pas souhaitée, mais 400 millions quand même qu'on va débourser du trésor public pour financer un forum de 2-3 jours pour combien de personnes? 400 millions de francs CFA. Ou bien c'est une méthode pour que les gens aillent se distribuer un peu de sous? Je me pose des questions. Pour quel résultat? Ils ont fait leur forum, ils n'ont pas eu besoin de 400 millions à Anéfis, là.
Nous allons prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vendredi 18 mars, vous suivez le forum de la presse du studio Tamani avec nos collègues qui nous ont fait l'honneur d'être là. Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Hassan Kone de notre nation.com, Lanfia Sinaba de l'éveil hebdo. Merci mesdames et messieurs de votre présence. Alors, on était sur la lancée du forum. Hassan, vous parliez tantôt justement de 400 millions, plus de 400 millions pour ce forum pour 3 jours. Alors, moi, je pose la question suivante à Célia Dalmeida. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait quel drapeau flotte à Kidal?
Je n'y suis pas allée, donc je ne saurais vous répondre. J'ose espérer qu'il y ait le drapeau du Mali, le vert, or et rouge. De tout mon cœur, j'ose l'espérer. Les images que j'ai vues ne m'ont pas montré de drapeau. J'ai vu des photos récentes de Kidal. Ne m'ont pas montré de drapeau d'Azawad non plus. Maintenant, j'espère que ce fameux 27, si forum il y a, et on espère qu'il y aura forum avec ou sans l'État malien, l'essentiel, comme l'a dit la FIA, c'est qu'on aille à la paix.
Et quels sont les risques d'ailleurs? Parce que Kidal, il y a très régulièrement des attaques sur Kidal aujourd'hui. Il réunit un certain nombre d'acteurs de la paix aujourd'hui à Kidal.
Le principal individu anti-paix d'ailleurs a menacé, a dit que si les gens venaient, ben, qu'il les attendait. Donc, en dehors même de la polémique, l'État ira-t-il, n'ira-t-il pas? Il y a l'aspect sécuritaire. On se demande bien si les gens là vont là-bas. Qu'est-ce que l'autre, je ne veux même plus dire son nom parce que c'est devenu le diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc l'inquiétude est aussi là de ce côté-là. Et il y a beaucoup de questions. Moi, je pense que là, vraiment, ce forum soulève beaucoup, beaucoup de questions. J'espère que s'il se tient, il nous aidera à avoir autant de réponses aussi.
Alors, on va évoluer vers un autre sujet, la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette commission qui s'agrandit de 15 membres et passe à 25 membres. Plus de place donc pour les groupes armés de la CMA, plus de place pour les groupes armés de la plateforme, mais également plus de place pour les partis politiques de l'opposition et de la majorité. Lanfia Sinaba, est-ce que on arrive à faire des frustrés à ce niveau, au niveau des combattants des droits humains au Mali, par exemple, qui avaient demandé un certain nombre de places dans cette commission-là?
Oui, ils peuvent être frustrés parce que quelque part, c'est légitime qu'ils soient dans cette commission. Mais moi, à mon avis, même s'ils ne sont pas dans cette commission, ils peuvent toujours jouer, ce rôle-là, les organisations de défense des droits de l'homme, à mon avis. Donc, c'est une très bonne chose si elles étaient associées. Mais indépendamment de cela, de la commission, à côté, je pense que déjà ces organisations-là font un travail formidable, qu'elles continuent dans cette lancée-là. Sinon, c'était bien en tant que, entre guillemets, avocat ou encore défenseur des victimes, il était bon qu'ils aient vraiment leur mot à dire au sein de la commission. Mais indépendamment de cela, je pense qu'ils peuvent aussi jouer toujours un rôle. Mais ce qui est, je voudrais peut-être évoquer à ce niveau, le fait de l'élargissement au niveau de l'opposition, c'est une très bonne chose parce que pendant très longtemps, l'opposition avait estimé qu'elle n'avait pas été associée, qu'elle n'avait pas été entendue. À chaque fois qu'on partait à Alger, l'opposition a souhaité d'être debout. Je pense que quelque part, ça va être une opportunité
Le président de la commission est quand même un membre de l'URD.
Bon, est-ce qu'il a été sollicité en tant que responsable de l'opposition? Je ne pense pas si sa nomination est due au fait qu'il est de l'URD. C'est surtout en tant que cadre malien, fils de la nation, qui a ses compétences, à mon avis. Je ne sais pas trop exactement, mais je ne pense pas que ce soit forcément lié à ses responsabilités d'opposant. Donc c'est une très bonne chose aujourd'hui, à cette étape, le fait qu'on ait associé l'opposition, peut-être ça va permettre, ça va donner l'occasion de rectifier ce qui n'a pas pu être fait dans le temps, à mon avis.
Hassan Kone, notrenation.com, parfois certains groupements qui sont représentés dans justement cette commission Vérité, Justice, Réconciliation sont pointés du doigt par Amnesty International, par les droits de l'homme, l'AMDH, comme ayant perpétré des crimes de guerre. Donc est-ce que c'est une chose aisée et facile aujourd'hui pour le travail confortable de cette commission?
Bon, on se pose des questions. Et quelle est la mission principale de cette commission? Quand on a la réponse à cette question, on aurait pu déterminer les membres de la commission. Si la commission a pour mission principale de rendre justice, de corriger les torts qui ont été commis à des victimes, de sanctionner ceux qui ont commis des fautes, je me demande si c'est la bonne place pour celui qui a commis la faute. Hein? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que je ne serai pas dans cette commission, étant entendu que je suis convaincu que c'est moi, j'ai coupé les bras à des individus ou j'ai fait couper des bras. Et dans cette commission, je vais venir prendre des décisions qui vont à mon encontre. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays-là. Hein?
Justement, cette commission ne se substitue pas à la justice classique aujourd'hui.
Je pense que les gens se battent pour entrer dans cette commission pour ce que nous savons tous, l'argent. Point final.
Et je voudrais rebondir.
L'argent, point final.
Quand on parlait du président, il a dit, ce monsieur a été peut-être, je ne sais pas, appelé pour ses compétences, ses capacités en tant que citoyen malien. Alors, pourquoi est-ce que ça doit être sur la base de « vous êtes de telle organisation, vous êtes de tel parti, vous êtes de ceci ». Pourquoi on ne dit pas « c'est une commission qui a dit mon point » et on fait un appel, on prend ceux qui sont les plus à même de défendre, comme le dit Hassan, des objectifs fixés à cette commission. Parce que effectivement, finalement, ça ressemble à un joli partage de gâteau qui ne dit pas son nom.
Alors, selon le président de cette commission, les membres sont choisis pour leurs compétences, leur intégrité intellectuelle et leur attachement sincère aux valeurs d'équité, de justice et de paix.
D'accord.
Donc, l'Amphia Sinaba, oui. Vous êtes d'accord avec cela, disons, au regard du choix des membres de la commission aujourd'hui?
Tu veux que j'accuse qui maintenant?
on n'accuse personne. On débat.
Oui, parce que je vois là où tu veux en venir. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà de ces considérations-là, que ceux qu'on estime fautifs, qu'ils soient aussi là, pour qu'ils se défendent aussi. Parce que souvent on peut accuser, on peut dire un tel a fait, de façon en apparence, mais au fond on trouvera que ce n'est pas en fait le fautif. Donc je pense que, comme Hassan l'a dit, contrairement à cet aspect, je pense que pour un début, il serait bien que tout le monde soit là-dedans. Dire que voilà un tel... Et j'imagine que quand il parle de ceux qui ont coupé les bras, il fait allusion à la fameuse dame, je crois, j'imagine bien. Donc, je pense qu'on doit aller au-delà.
La fameuse dame.
Oui. La dame va venir réconcilier qui?
Il fait allusion à la fameuse dame. Non, je pense qu'on va la voir à l'œuvre, je pense.
Alors,
bien.
Je ne pense pas que nos auditeurs vont comprendre quand on dit la fameuse dame.
C'est Walet Tilout.
Merci, qui est vice-présidente donc de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Très rapidement, on va évoluer vers un dernier thème. Célia d'Almeida, on pose beaucoup de questions. L'Amenokal de Kidal, qui est aussi députée, a demandé à négocier avec Yad Agali. C'est une possibilité. Sur nos antennes, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CMA l'a dit il y a quelques jours, il y avait un deal entre le MNLA et Yad Agali à l'époque. Yad devait se désolidariser, selon lui, selon ses propos, donc des islamistes avant justement ces attaques, le raid de la France, donc ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est logique et sensé d'échanger, de discuter, de négocier avec Yad Agali?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que veut ce monsieur. Au départ, il est venu avec des gens qui avaient des visées indépendantistes. D'accord ? Il est Touareg du nord du Mali. Les autres Touareg demandaient l'indépendance. Donc il est venu en combattant pour l'indépendance. Et puis tout à coup, il s'est mis à combattre ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et puis après, il est devenu islamiste, terroriste, chef de guerre, etc. Bon, on nous parle de négocier, mais on négocierait, on parlerait de quoi ? Si aujourd'hui, l'objectif de Iyad Agali est d'instaurer un État islamique, la charia, au Mali. Le Mali étant un pays laïque et républicain, de quoi allons-nous parler ? On va dire, bon, d'accord, on va voir, on va faire moitié charia, moitié républicain, ou bien, bon, on va te céder un petit bout du Mali, tu vas aller t'asseoir là-bas, tu vas faire ta république islamique. En fait, je ne vois même pas de quoi on peut parler. Maintenant, tout conflit finit de toutes les façons par une négociation. Peut-être que Iyad Agali a dit à ces gens-là qu'il est prêt à mettre de l'eau dans son vin sur tel ou tel aspect. Et si c'est cela, ce serait bien qu'on nous le dise. Ou bien si ça se dit à des sphères autres que celles où le Malien lambda comme moi peut le savoir, eh bien qu'on nous mette en tout cas dans la voie de savoir qu'il se passe des choses et que ces choses vont dans le bon sens. Le problème est qu'on est dans le flou total. On nous parle de négocier avec quelqu'un qui n'est pas dans la logique de notre État, dans la logique du Mali comme nous le voyons, comme nous le voulons. Donc de quoi allons-nous parler ?
Hassan Kone, Célia l'a dit tout à l'heure. Iyad a même proféré des menaces
sur le forum
de Kidal. Aujourd'hui, est-ce que c'est censé de vouloir, même de penser pouvoir négocier avec Iyad Agali?
Oui, pour mettre fin à un conflit, comme Célia l'a dit, on s'assoit autour d'une table, on discute, on négocie. Mais encore, Iyad a dit à qui que lui veut négocier. Négocier à Iyad. Iyad a dit à qui que lui, il est dans le dispositif de négocier avec le Mali. Le Mali peut négocier à Iyad, mais si Iyad veut négocier avec le Mali, voilà la grande question. Et de deux, ceux qui demandent au Mali de négocier aujourd'hui à Iyad là, c'est à eux de négocier à Iyad parce que Iyad est leur allié. Iyad fut leur allié. Ils n'ont qu'à d'abord régler leurs problèmes internes avant de venir nous emmerder au Mali avec ça. Parce que tout le problème de Kidal, c'est ça. C'est des problèmes internes au niveau de Kidal qui transportent au niveau de l'État malien. Ils n'ont qu'à négocier entre eux. C'est à eux de négocier avec Iyad. C'est pas à l'État malien d'aller négocier avec Iyad. C'est eux, ils étaient camarades avec Iyad. C'est eux, ils ont envahi le nord du Mali ensemble avec Iyad. À l'époque... Et l'Aminokal était même dans le mouvement de Iyad. Il était dans le mouvement de Iyad. Donc si quelqu'un est disposé aujourd'hui à mieux négocier à Iyad, c'est l'Aminokal de Kidal. Qui trouve un terrain d'entente avec Iyad d'abord, avant de transporter le problème au niveau de l'État malien. Mais malheureusement, c'est la méthode qu'ils utilisent toujours. L'État malien, dans une précipitation, va aller se mettre dans un dossier de négociation avec Iyad, qui donnera aucun résultat. Et deux ou trois ans encore, ce même Iyad va soulever une colonne de rébellion quelque part sur le territoire malien.
Lamfia Sinaba, pour le dernier mot, est-ce que on peut négocier avec quelqu'un comme Iyad Agali aujourd'hui?
Ah, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui Iyad est fréquentable, vu ses liens avec les murs du Sahara?
Il peut même pas.
C'est la question que je me pose. Sinon, je n'ai rien contre le fait qu'on négocie avec lui. On me dira peut-être pourquoi négocier avec un terroriste, mais ailleurs on a négocié avec des terroristes. Aujourd'hui, il y a des Américains qui sont en train de négocier avec des terroristes. Ailleurs, on négocie avec des touristes. Si c'est de nature à nous amener la paix, pourquoi pas? Mais maintenant, la question que je me pose personnellement, c'est les liens de Iyad avec les terroristes. Est-ce qu'il est dans une phase aujourd'hui, dans une situation qui lui permet de s'extirper, de sortir de cette situation, de cette gouffre des terroristes? Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Merci beaucoup.
À défaut de l'abattre, parce qu'en allant à Alger, c'est ce que j'avais dit en son temps, soit faire tout pour le liquider ou encore négocier avec lui. Malheureusement,
le neutraliser.
Merci beaucoup. Ceci met donc fin au forum de la presse. Messieurs, mesdames, merci d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation, Gagné Kanté et à la technique, et Salim Diouara à la régie vidéo. Nous étions avec Célia d'Almeida du Journal du Mali, Hassan Kone de Notre Nation et Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo. Malheureusement, Awa Togola Semega n'a pas pu effectuer les déplacements. Nous en sommes désolés. Cette émission a donc été réalisée par Ayouba Sow. Merci et bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry.